Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, l'antenne vous appartient, nous sommes vendredi et dans 30 minutes évidemment ce sera la libre antenne, l'occasion pour vous tous de nous rejoindre, de nous appeler ici à Paris pour lancer le débat sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous êtes les bienvenus, donc surtout n'hésitez pas, 33 9 693 693 70 et vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. N'oubliez pas évidemment, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, rien n'est obligatoire, mais de nous envoyer un numéro de téléphone lorsque vous postez vos commentaires afin que nous puissions vous rappeler et que vous puissiez évidemment réagir en direct. Mais d'abord, comme tous les jours, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Vincent Souriau, vous le disiez à l'instant, on va commencer avec une question football et on va revenir sur cette altercation entre Neymar et Cavani, les deux stars du PSG. Vous avez été nombreux ces derniers jours, facile une quinzaine, une vingtaine d'auditeurs à nous envoyer des questions, à nous appeler au standard. Darvin est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour, Elena.
Vous êtes à Pointe-Noire, hein, au Congo. C'est bien ça. Nous vous écoutons.
Lors du match Paris-Lyon, Neymar et Cavani ont eu une altercation. Pourquoi une telle altercation autour d'un pénalty? La deuxième question, quelle est la part de responsabilité de l'entraîneur?
Le pénalty de la discorde. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Juan Gomez, bonjour Darvin.
Journaliste au service des sports de RFI. Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton de la semaine, rappelez-nous en quelques mots ce qui s'est passé dimanche dernier au Parc des Princes.
On se croirait dans un épisode de Tchoupi, et dans une cour d'école, quoi. C'est une querelle qui sera le plus beau coq de la basse-cour dans l'effectif bling-bling du Paris Saint-Germain. Cavani tire les pénaltys depuis au moins la saison dernière.
D'Ibrahimovic.
Exactement. Et puis, voilà que dimanche, Neymar, nouvelle arrivée, et pour 220 millions d'euros, faut le rappeler, s'est dit, tiens, moi aussi, j'aimerais bien essayer. Et puis Cavani ne l'a pas entendu de cette oreille. Alors ça, c'était en mondovision, parce que tout le monde a vu ces images. Ce qu'on n'a pas vu, c'est l'altercation assez vive dans les vestiaires après. Ils ont été séparés par leurs coéquipiers. Tout ça s'est calmé dans la semaine.
Oui, officiellement, puisqu'ils se sont tous retrouvés dans un beau restaurant parisien.
C'est une bande de copains.
Mercredi, c'est une bande de copains. Mais derrière tout ça, il y a quoi? Il y a une guerre d'égo.
Évidemment, qui sera le plus beau coq de la basse-cour? C'est exactement ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions d'argent?
Alors, oui, un peu. Alors, d'abord, officiellement, mercredi, ils ont été réunis à l'initiative de Dani Alves, nouvel arrivant, mais déjà un peu taulier de ce groupe. Tout l'effectif dans un restaurant parisien. Ensuite, juste avant, il y aurait eu des excuses de Neymar qui a dit « Ok, les gars, je suis allé un petit peu loin, je m'excuse et on en reste là ». On a attendu l'entraîneur hier, parce que finalement, quand il s'agit de tirer les pénaltys, il y a un homme qui peut décider, c'est l'entraîneur. Il nous a dit, ils sont les deux. Alors, comme il parle pas tout à fait bien le français, on n'est pas sûr d'avoir tout à fait bien compris. Il a dit qu'il en parlerait aux joueurs, mais lui a décidé. Vraisemblablement, on va en rester là. Cavani va les tirer, et puis une fois qu'il en a tiré un, peut-être que Neymar aura le droit de tirer le deuxième.
Enfin, il aurait dû déterminer avant le match qui pouvait tirer les pénaltys. Zidane a été interrogé, il n'est pas rentré dans la polémique du PSG, mais enfin, il a dit, nous, Real Madrid, eh bien, nous préparons nos matchs. Nous savons qui va tirer les corners et qui va tirer les pénaltys.
Oui, il aurait dû. Alors, peut-être que c'était entendu. Cavani, dans la foulée de la saison dernière, c'est vrai que Cavani, il s'est sorti de l'ombre tutélaire, enfin de l'ombre envahissante d'Ibrahimovic. Neymar, lui, est parti de Barcelone pour éviter d'être dans celle de Messi. Et donc, il réclame. Il y a, bien sûr, des gros sous. Neymar, lui, il vise le ballon d'or. Alors, c'est pas en tirant 4 ou 5 pénaltys dans la saison qu'il l'obtiendra, ce ballon d'or. Cavani, lui, il vise le titre de meilleur buteur parce que la clé, il y a quand même un petit million d'euros. Trois fois rien. Un petit million d'euros de récompense.
C'est ce que figure dans le contrat de Cavani.
C'est ce qui figure dans le contrat de Cavani. Pour l'instant, on ne sait pas bien. On sait que Unai Emery les a vus, leur a parlé. Il y a un match demain face à Montpellier. On espère tous qu'il n'y aura pas de pénalty. Parce que ce qui serait rigolo, c'est qu'il y ait un pénalty mercredi. PSG Bayern en direct sur RFI. Et là, s'il y a pénalty, qui va le tirer? Ce serait rigolo de voir ça.
Merci beaucoup Olivier Pron.
Je vous en prie.
Darvin, bonne journée à Pointe-Noire et merci de nous écouter au Congo, 10h14 à Paris. Vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso, et vous avez des questions sur les élections législatives de dimanche en Allemagne.
À Bobo-Dioulasso.
Ah, vous êtes à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, autant pour moi, mais vous êtes le bienvenu quand même sur l'antenne d'RFI. On vous écoute, Emmanuel.
Alors, Juan, j'aimerais d'abord remercier toute l'équipe qui t'accompagne.
Merci de vos encouragements.
Voilà. Le dimanche prochain, les électeurs allemands devront choisir les 630 députés du Bundestag. Alors, l'AfD, qui est le parti d'extrême droite, est crédité de 12% dans le sondage. Cela signifie-t-il que le parti pourrait rentrer au Parlement? Si oui, quelle serait sa marge de manœuvre dans les prises de décision?
Alors, c'est vrai que dans les dernières enquêtes d'opinion, le parti nationaliste et populiste AfD est crédité de 9 à 12% des intentions de vote. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Emmanuel.
Correspondant de RFI à Berlin, disons-le déjà tout de suite, la chancelière allemande est bien partie pour remporter un quatrième mandat, donc pas de surprise à ce niveau-là. En revanche, dimanche, l'Allemagne pourrait bien vivre un choc politique avec pour la première fois depuis 1945 l'entrée au Parlement de députés d'extrême droite.
Oui, tout à fait. Avec les scores actuels dans les sondages, entre 9 et 12%, c'est quasiment hors de doute que ce parti sera dimanche soir représenté au Bundestag, puisque la barre pour y rentrer, le minimum, c'est 5%. Un score que le parti avait d'ailleurs failli franchir en 2013 avec 4,7%. Donc, sans présence est hors de doute. Effectivement, ce sera un choc. C'est pas, il y a déjà eu des représentants d'extrême droite au début des années 50 dans le Parlement allemand, mais avec une telle force, ce serait évidemment une première et évidemment un choc, non seulement en raison du passé de ce pays, de l'Allemagne avec le Troisième Reich, mais aussi en général pour ce que ça signifie.
Et le chef de file de l'AfD a déjà prévenu qu'une fois au Bundestag, il demanderait l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la chancelière. Quelle sera concrètement la marge de manœuvre de ce parti ?
D'abord, il y aura un côté symbolique. Si l'AfD est la troisième force derrière les chrétiens démocrates d'Angela Merkel, derrière les sociaux-démocrates emmenés par Martin Schulz, ça a évidemment un côté également fort. Si au-delà même des 9 à 12% et le parti devait atteindre 15% dimanche soir, ce serait aussi évidemment un symbole fort. Ça signifie aussi, par exemple, que s'il y a un renouvellement de la Grande Coalition, ce qui n'est pas exclu, eh bien ce sera la première force d'opposition qui, par exemple, lors des débats de politique générale, sera le premier parti à intervenir après le discours d'Angela Merkel. Et traditionnellement, c'est aussi ce parti qui nomme le président de la commission budgétaire, ce qui est une fonction évidemment pas tout à fait inoffensive, et la possibilité évidemment de demander la création de commissions d'enquête comme celle que demande Alexander Gauland, une des têtes de file du parti.
En tout cas, édition spéciale sur RFI, dimanche à 19h10 heure de Paris, 17h10 temps universel, RFI qui vous proposera donc une émission spéciale en direct de Berlin, avec nos envoyés spéciaux et avec vous-même, Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Emmanuel, bonne journée à Bobo-Dioulasso, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, la libre antenne, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de la semaine. Et nous allons d'abord accueillir Lassine. On va prendre Lassine qui nous appelle de Bamako, au Mali. Bonjour.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Comme de nombreux auditeurs depuis maintenant 2-3 semaines, vous avez des questions sur la crise des Rohingyas.
Effectivement, Madame Aung San Suu Kyi a finalement pris la parole sur la situation de Rohingyas. Cependant, la dirigeante birmane a occulté les exactions commises par l'armée sur les populations civiles. Alors ma question est la suivante, Juan. Quelle est la marge de manœuvre dont dispose Madame Aung San Suu Kyi face à une armée omniprésente et avec qui elle partage le pouvoir en Birmanie?
Et c'est vrai qu'après avoir été vivement critiquée pour son silence depuis le début de la crise, la prix Nobel de la paix a enfin pris la parole. C'était mardi devant le Parlement birman, un discours télévisé, autant dire qu'il était très attendu ce discours. Bonjour Sophie Boisseau-Durocher.
Bonjour.
Chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, Aung San Suu Kyi a certes condamné toutes les violations des droits de l'homme, mais elle a évité de parler des militaires qui sont quand même accusés de tirer sur les civils, d'incendier des villages. Que vous inspirent les propos de la dirigeante birmane ?
Écoutez, évidemment, une certaine déception, mais une déception qui est quand même nuancée quand on replace les propos de Madame Aung San Suu Kyi dans le contexte birman. Je crois qu'il faut faire très attention parce que, au fond, on attend de Madame Aung San Suu Kyi, qui est conseillère d'État et ministre des Affaires étrangères, on attend qu'elle ait des réactions identiques aux nôtres. Et ce n'est pas possible. D'où l'écart, si vous voulez, entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et notre déception. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas véritablement agir? Tout simplement parce qu'elle n'a pas les cartes en main. Je crois qu'il faut bien comprendre ça. Elle ne les a pas sur le plan constitutionnel. L'armée n'a accepté la transition démocratique que si elle la contrôlait. Et donc, elle a mis en place une constitution en 2008 qui a été acceptée par référendum. Et dans cette constitution, elle garde les grands pouvoirs. Donc, elle garde d'abord une participation imposée au Parlement. Elle garde trois ministères qui sont des ministères clés dans la crise actuelle, la sécurité des frontières, la défense et la sécurité intérieure. Et puis, elle garde aussi un droit de veto sur tous les amendements proposés au Parlement.
Mais enfin, donc, elle pourrait faire preuve de davantage. Alors, je vais être un peu provocateur, si vous me le permettez, Sophie Boisseau du Rocher. Elle pourrait faire preuve de davantage de courage, tout de même. Même si elle n'a pas le pouvoir, elle peut quand même...
De courage, non, parce que en fait, ce qu'elle fait, c'est-à-dire de timides avancées, sont déjà une forme de courage dans le contexte. C'est-à-dire qu'elle sait que les militaires n'attendent qu'une chose, c'est qu'elle échoue ou qu'elle fasse une erreur pour reprendre le pouvoir au nom de la sécurité nationale. Et donc, si vous voulez, pour elle, c'est un point important que d'inscrire la question du règlement des Rohingyas dans la question beaucoup plus large du règlement de la réconciliation nationale en Birmanie. Et donc, ce faisant, elle n'intègre pas, elle ne donne pas une importance particulière aux Rohingyas, ce qui évidemment nous déçoit. Mais on oublie qu'il y a encore pas mal de minorités en Birmanie, il y en a 130, mais il y en a encore au moins une vingtaine qui sont en conflit armé avec, en conflit direct avec l'armée. Et donc, si vous voulez, voilà, les Rohingyas, c'est une chose, et il faut aussi prendre conscience que les Rohingyas, c'est le fin fond de la Birmanie. Et donc, si vous voulez, c'est véritablement pas la priorité du gouvernement. Maintenant, à nouveau, en tant qu'Occidentaux, on est très surpris du manque de compassion, je dirais, à l'égard de cette minorité.
L'ONU évoque un nettoyage ethnique. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé cette semaine, je cite, un génocide en cours, une purification ethnique, et on rappelle que plus de 410 000 membres de cette minorité musulmane se sont réfugiés depuis la fin du mois d'août au Bangladesh pour fuir la répression de l'armée birmane. Merci beaucoup Sophie Boisseau du Rocher d'avoir été avec nous. Lassine, bonne journée à Bamako, bon week-end au Mali. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur les archives françaises, les archives de l'Élysée sur le Rwanda. Bonjour Osvaldo.
Bonjour Juan, bonjour auditeur de RFI.
Vous nous appelez de la région parisienne.
Oui, j'ai appris sur vos antennes qu'une partie des archives sur le génocide Rwanda a été ouverte, mais le Conseil constitutionnel a décidé de ne pas exiger l'ouverture totale à la demande d'un chercheur.
Oui.
Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui empêche légalement le Conseil constitutionnel de donner un accès total à ces archives? Et quel point spécifique ce chercheur pense-t-il éclairer sur le génocide Rwanda en ayant le droit à ses archives?
Ouais. Eh bien, le chercheur en question est avec nous. Bonjour François Graner.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Survie. Vous enquêtez depuis plusieurs années sur le rôle de la France dans le génocide rwandais. Vous avez notamment publié aux éditions Tribord « Le sabre et la machette, officier français et génocide Tutsi ». Et vous avez, comme le rappelait à l'instant Osvaldo, notre auditeur, vous avez saisi le Conseil constitutionnel en déposant ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. C'est un peu compliqué, on va donc essayer de faire simple, François Graner. Car en fait, la mandataire des archives de François Mitterrand, qui est le président de la République de l'époque, vous a refusé l'accès à certains documents relatifs au génocide, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Et pour répondre à Osvaldo, il n'y a aucune loi qui empêche le Conseil constitutionnel de quoi que ce soit, hein, parce que c'est lui qui décide si une loi est valide ou pas. Donc, et plus précisément, c'est lui qui décide si elle est conforme avec la Constitution.
En tout cas, pour vous, le fait que la mandataire de François Mitterrand vous refuse l'accès à ses archives, c'est tout simplement contraire à la Constitution et contraire aux libertés fondamentales.
Ben oui, notre Constitution, elle est basée sur la Déclaration des droits de l'homme. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, avant Mitterrand, c'était Giscard qui a donné à une personne privée le droit de contrôler l'accès à ses archives de gouvernement, hein, ses archives publiques. Mmh. Et donc ce mandataire de Giscard, il est au-dessus des lois, du pouvoir politique, il n'y a pas de recours en justice contre lui. Et Mitterrand a fait pareil. Donc visiblement, ce n'est pas du tout conforme à la Constitution. Et en 2008, les parlementaires, ils s'en sont aperçus, ils sont d'accord avec moi d'ailleurs sur ce point, ils ont changé la loi. Et donc maintenant, pour les présidents suivants, Chirac, Sarkozy, et plus tard Hollande, Macron, ce système a été abandonné. Mais ils ont gardé ce système, ils l'ont toléré pour les archives déjà versées, celles de Giscard et de Mitterrand.
Mais le Conseil constitutionnel vous a débouté.
Alors le Conseil constitutionnel, il faut voir que sur 8 personnes, il y en a 4 qui sont concernées par cette loi. Sur 9 personnes, pardon. Il y en a 4 concernées par cette loi. Il y a Giscard lui-même, il y a Michel Charras qui est le fondateur de l'Institut François Mitterrand, et il y a Fabius et Jospin qui sont des anciens premiers ministres socialistes. Donc le Conseil constitutionnel dans son ensemble a choisi de protéger le secret de Giscard et de Mitterrand. C'est une décision qui me paraît plus politique plutôt que juridique, parce qu'ils ont fait pas mal d'erreurs de droit dans leur motivation.
Je pense effectivement... En tout cas, vous ne désespérez pas, François Graner, de pouvoir un jour ou l'autre accéder à ces archives. Vous attendez découvrir quoi exactement pour répondre à la deuxième question d'Osvaldo? Est-ce qu'en ayant accès à ces archives, quel point spécifique vous cherchez clairement à éclaircir?
Pour finir sur le point précédent, à la Cour européenne des droits de l'homme, d'habitude dans ce genre de cas, ils donnent la priorité au droit et pas à la politique intérieure, et donc c'est pour ça que je pense la saisir rapidement. Donc oui, je pense quand même avoir accès à ces archives dans le futur.
Donc vous avez l'intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme?
Oui, rapidement.
D'accord,
oui,
très bien. Ok.
Alors qu'est-ce que je pense trouver dedans? Alors d'abord, c'est essentiellement du travail historique de fond. Hein. Sur un an, il faut l'ensemble des archives complets pour pouvoir faire un travail de fond. C'est un travail collectif avec plusieurs chercheurs, chacun a ses axes de recherche. Mon axe personnel, c'est plutôt sur les mécanismes de décision, pour comprendre comment la France a pu avoir un rôle dans le génocide. Je rappelle, c'est pas le génocide rwandais, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis, il faut préciser effectivement, qui sont les victimes. Et en particulier, c'est utile de comprendre les mécanismes de décision pour en tirer les leçons et éviter que ça se reproduise dans le futur. C'est aussi pour le futur que je pense que l'histoire est importante.
Oui.
Plus précisément, moi, je cherche à déterminer qui est responsable de quoi, c'est-à-dire qui a donné tel ou tel ordre favorable au génocide des Hutus, à leur armée, à leur administration, et même à la radio d'Émile Colline, qui est tristement célèbre. Donc c'est important de préciser les rôles respectifs, le rôle de Mitterrand, le rôle de l'amiral Langsad qui était chef d'état-major à l'époque, qui est le pivot de l'intervention française, et puis des autres personnes qu'on voit, dont on a les archives, comme le général Quesnot, Hubert Védrine, voilà, les autres personnes qui sont intervenues.
Alors, il faut rappeler tout de même aux auditeurs qu'il y a 2 ans, François Hollande avait annoncé la déclassification des archives de la présidence française sur le Rwanda pour la période 1990-1995. Vous avez eu accès à certains documents depuis l'annonce de l'ancien président?
Certains, oui, mais il avait demandé que tous les documents soient ouverts aux chercheurs avant la fin de l'année 2016. L'année est terminée et je continue à avoir des blocages de la part de Mme Bertinotti, qui est la mandataire de François Mitterrand.
Merci beaucoup, François Graner, d'avoir été avec nous. Osvaldo, on a répondu à vos 2 questions.
Merci, Juan, merci.
Merci surtout à François Graner d'avoir été avec nous, membre de l'association Survie, chercheur. Je rappelle votre ouvrage, pour ceux que ça intéresse, aux éditions Tribord, Le sabre et la machette, officier français et génocide Tutsi. À suivre, comme tous les vendredis donc, la libre antenne, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. Vous êtes nombreux ce matin à souhaiter nous interpeller sur la situation au Togo et la mobilisation de l'opposition pour une réforme constitutionnelle. Des appels également sur le nouveau passeport biométrique en République démocratique du Congo, nouveau passeport qui suscite polémique, on en parlera évidemment, on parlera football, on parlera également des manifestations en Guinée pour dénoncer l'absence d'électricité, tout ça, ce sera dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.